franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Des milliers de dossiers de retraités en souffrance, des hommes et des femmes en détresse qui ne touchent pas leur pension. Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, annonce des mesures. Les prévisions de l'INSEE, elles sont plus optimistes pour début 2015, vers un début de reprise économique. Amende record prononcée par l'autorité française de la concurrence. 13 fabricants du secteur de l'hygiène, de la beauté se sont entretenus sur leur prix. La mort à 78 ans de l'actrice italienne Virna Lisi. Elle avait tourné durant sa longue carrière avec les plus grands noms du cinéma mondial.
France Inter.
C'était ce matin sur notre antenne. Vous avez peut-être entendu cette situation de détresse vécue par des milliers de retraités du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. De nouveaux retraités qui n'ont toujours pas touché un euro de leur retraite. Aucune pension. Explication, la caisse de retraite de ces régions est débordée. Près de 6000 dossiers sont en souffrance. 10% de dossiers supplémentaires à gérer par rapport à l'an dernier pour des effectifs inchangés, CQFD. Mais pour les retraités, c'est leur quotidien qui devient très difficile. Alors Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, annonce une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 800 euros pour ces personnes en grave difficulté financière, privées de ressources. Une annonce faite chez nos confrères de France Info.
Ça n'est évidemment pas acceptable, je veux le dire. Et il y a urgence, il n'est pas acceptable que des hommes, des femmes qui déposent un dossier de retraite ne reçoivent pas leur retraite dans un délai satisfaisant. J'ai donc pris un certain nombre de décisions, mais la première, je veux le dire, c'est que les personnes qui sont le plus en difficulté financière, c'est-à-dire celles qui font une demande de retraite sans avoir d'autres retraites par ailleurs, pourront bénéficier d'une aide anticipée avant la fin du mois de décembre, qui pourra aller jusqu'à 800 euros.
Et
puis, les deuxièmes décisions, c'est que des moyens sont renforcés pour traiter les dossiers dans des délais qui soient accélérés. Et j'ai indiqué que je voulais qu'avant la fin du mois de janvier, la situation soit revenue à la normale.
Dans l'actualité de la soirée, l'action coup de poing de la CFDT Transport, premier syndicat du secteur. 300 chauffeurs routiers se sont retrouvés au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines sur la 10, l'un des plus importants d'Europe. Les routiers ont bloqué les camions qui vont ce soir à Rungis, mais ils ont laissé passer les voitures. Autrement dit, une mise en garde adressée au patronat pour peser sur les négociations salariales. Reportage d'Audrey Morellato.
L'opération de ce soir est avant tout symbolique. Il s'agit de montrer qu'à quelques jours de Noël, les étals des Halles de Rungis pourraient se retrouver vides si la mobilisation grandissait. Être mieux payé, c'est la revendication principale et elle concerne aussi les routiers qui sont bloqués. Thierry Cordier est secrétaire général de la CFDT Transport.
Attendez, il n'y a pas de bagarre générale, il n'y a pas de gens qui se tapent dessus, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de crachats. Est-ce que c'est impopulaire? Non, je ne pense pas. Les personnes en voiture arrivent à circuler, les autocars avec des passagers dedans circulent, ah, les camions ne circulent pas. Oui, ben c'est bien ce qu'on voulait. Si le patronat reste arc-bouté sur sa politique salariale, c'est-à-dire ne pas augmenter ses salariés, ne pas vouloir qu'on puisse vivre dignement, nous repartirons dans l'action, nous leur ferons comprendre que où ça fait mal et où ça fait mal, c'est sur l'économie. C'est le moment aujourd'hui d'augmenter les salariés parce que si franchement, ils voulaient passer, les camions forceraient sans aucun souci et ce n'est pas 2 ou 3 militants qui pourraient empêcher.
Au total, ils sont un peu plus de 300 ce soir. Ils ont allumé des barbecues pour montrer qu'ils pourraient rester s'ils le voulaient. Mais demain matin, a priori, tout le monde devrait circuler normalement sur la 10, voitures et camions compris.
Je ne serai pas le rat qui quitte le navire. Thierry Lepan, le numéro 1 de la CGT, redit ce soir chez nos confrères de France 3 qu'il ne quittera pas son poste de secrétaire général du syndicat. Il veut faire front, dit-il. Reste que le sort de Thierry Lepan sera scellé au plus tard le 13 janvier lors d'une session extraordinaire de son Parlement. Il est sur la sellette depuis les révélations sur des dépenses prises en charge par la CGT. Une grève qui coûtera encore plus cher que prévu. Air France KLM révise de 200 millions d'euros supplémentaires la baisse de ses prévisions de rentabilité pour 2014. Fin octobre, le groupe tablait sur 500 millions d'euros. Une conséquence de la grève des pilotes en septembre dernier et de la diminution des réservations constatées pour le quatrième trimestre. L'INSEE est optimiste, ça faisait longtemps. Mais il ne faut pas non plus crier victoire. Pour l'Institut statistique, les freins à l'activité se desserrent un peu. Si la fin de l'année n'est toujours pas brillante, avec plus 0,1% de croissance, début 2015 s'annonce sous de meilleurs auspices. Explication de Vladimir Passeron, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.
Nous voyons à la fin de cette année 2014 un certain nombre de freins qui se desserrent et qui permettront d'avoir un régime de croissance un peu plus élevé au cours des prochains trimestres. On prévoit une croissance de 0,3% au premier trimestre 2015, après plus 0,1% au quatrième trimestre 2014, et puis de nouveau 0,3% au deuxième trimestre 2015, qui nous permettrait d'avoir un acquis de croissance à mi-année de 0,7%. Il suffit d'avoir une croissance de 0,3% chacun des trimestres qui suit pour avoir 1% de croissance sur l'ensemble de l'année. Nous prévoyons une accélération du pouvoir d'achat, nous prévoyons également une accélération de la consommation, mais moins importante que celle du pouvoir d'achat, c'est-à-dire on prévoit une légère hausse du taux d'épargne parce qu'il reste de l'épargne de précaution, parce que le chômage continuerait d'augmenter dans notre scénario, et donc les ménages resteraient prudents par rapport à cette hausse du pouvoir d'achat.
Propos recueillis par Bruce de Galzin. 950 millions d'euros d'amende, un record pour 13 entreprises dans la cosmétique et l'hygiène. Ces géants se sont entendus sur les prix et sur notre dos, bien sûr. Unilever et L'Oréal vont faire appel. Philippe Lefebvre.
Eh bien, tout commence le 3 février 2006 lors d'une descente de police dans les sous-sols d'une brasserie du 17e arrondissement. Là, autour de la table, il y a les membres du cercle Team. En fait, les directeurs commerciaux français des 13 plus grands groupes mondiaux spécialisés dans l'hygiène, la beauté et les produits d'entretien. C'est un membre du personnel de Colgate Palmolive qui organise la rencontre. Ordinateurs et dossiers sont saisis. La suite, c'est Emmanuel Comble, vice-président de l'autorité de la concurrence, qui la raconte.
Le but de cette entente, c'était en réalité de s'échanger des informations pour négocier en position de force avec les distributeurs. Et les échanges d'informations portaient sur tous les paramètres des hausses de prix. Et ils échangeaient y compris sur les arguments à utiliser auprès de la grande distribution pour justifier ces hausses de prix.
Impossible dans ces conditions pour la grande distribution de négocier la moindre baisse des prix, d'autant qu'il s'agit de produits incontournables et de marques célèbres de rasoirs, de shampoings ou de liquides vaisselle. Et si les enquêteurs de l'autorité de la concurrence ont pu lever le voile sur ces pratiques, c'est parce que l'une des entreprises, se sentant surveillée, a dénoncé les autres en échange de l'immunité. Petit détail, sur les 13 entreprises condamnées, 4, Unilever, Henkel, Procter et Colgate, avaient déjà été condamnés en 2011 pour entente sur les prix des lessives. Ces entreprises se montrent ce soir, vous vous en doutez, très discrètes. Seules deux d'entre elles, Unilever et L'Oréal, ont dit vouloir faire appel, non pas sur les faits, mais pour diminuer le montant des amendes.
Intersoir, Laurence Thomas.
À l'étranger, les États-Unis annoncent la mort de plusieurs chefs du groupe État islamique dans le nord de l'Irak. Un succès de la coalition internationale qui a mené ces derniers jours plus d'une soixantaine de raids aériens. Raúl Castro, le président cubain, pourrait faire une petite visite à Washington. La Maison-Blanche ne l'exclut pas. Déclaration du porte-parole de la présidence américaine au lendemain de l'annonce des mesures de normalisation entre Cuba et les États-Unis. Et au lendemain de ce rapprochement historique, le monde applaudit, mais Barack Obama risque de se heurter à l'hostilité du Congrès. Quant aux Cubains exilés depuis longtemps en Floride, eh bien, certains sont dubitatifs. Reportage de Charlotte Alix.
C'est une décision économique plus que politique.
À l'image de Ricardo, un exilé de 65 ans, nombre de Cubains ici rejettent en bloc l'argument selon lequel une libéralisation des échanges entre les deux pays pourrait réussir là où l'embargo a échoué.
Dès que Cuba pourra obtenir des prêts bancaires, Castro encaissera l'échec et il ne restera pas grand-chose pour les pauvres.
Comme Ricardo, Rosé refuse de croire que le régime pourrait redistribuer de quelconques bénéfices.
Cela fait des années que le régime veut lever l'embargo, parce que ça lui rapporterait beaucoup d'argent. Ceux qui sont au pouvoir à Cuba, ils sont communistes, mais aussi capitalistes. Ils ont compris qu'ils avaient intérêt à ce que les entreprises étrangères viennent faire du business et acheter des propriétés à Cuba.
Pour beaucoup de Cubains, surtout les plus âgés, les frères Castro ont tout gagné dans l'accord conclu hier. Mais Marissa, une jeune étudiante, préfère y croire, laisser sa chance à une autre approche envers le régime. Ils ne pourront plus rejeter la faute sur l'embargo et ça va faire changer les choses parce que les jeunes Cubains vont leur dire « Ok, si ce n'est pas l'embargo, alors c'est à cause de vous, vous qui ne voulez pas nous rendre notre liberté ». Liberté d'opinion, liberté d'entreprendre, ils en rêvent, ces jeunes Cubains américains qui soutiennent à 90% un rapprochement entre les deux pays. Miami, Charlotte Alix, France Inter.
Il est optimiste, Vladimir Poutine. Le président russe affirme que l'économie de son pays va finir inévitablement par se redresser. Cependant, il n'a pas précisé aujourd'hui de solution à l'aggravation de la crise financière liée à la chute du rouble sur les marchés des devises. Il a tout juste admis aujourd'hui que la Banque centrale aurait pu agir plus rapidement pour soutenir le rouble qui a perdu depuis le début de l'année près de 45% de sa valeur face au dollar. Sa conférence de presse annuelle devant 1200 journalistes était donc très attendue à Moscou. Marc Crépin.
On l'attendait sur la crise financière et sur la chute du rouble. Mais Vladimir Poutine, qui n'est guère à l'aise sur ces questions, a d'abord voulu rassurer. Il a commencé par expliquer à quel point l'économie russe reposait sur des bases solides. Autrement dit, tout va bien dans l'agriculture, tout va bien pour les Russes en matière sociale et pour les retraites et les salaires qui augmentent. Évidemment, après ce satisfecit, il fallait bien reparler de la dévaluation de fait de la monnaie nationale, de l'affolement des Russes et de leur inquiétude quant aux sanctions. Elles ne participent que pour 25% au problème de la Russie.
Aujourd'hui, la situation est le résultat de facteurs extérieurs avant tout. Mais il faut dire que nous n'avons pas fait tout ce que nous avions projeté sur la diversification de notre économie pendant environ 20 ans. Dans combien de temps ? Ça prendra, dans le pire des cas, 2 ans.
Au-delà des questions économiques, il a balayé tous les sujets. Il est notamment revenu sur l'Ukraine et la Crimée. Rien n'a changé dans son analyse. Les Occidentaux sont les premiers responsables de ce qui se passe en Ukraine et la Crimée est une partie légitime de notre nation. Moscou, Marc Crépin, France Inter.
L'actrice italienne Virna Lisi, primée à Cannes pour son rôle dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, est morte à l'âge de 78 ans. Elle a donné la réplique aux plus grands acteurs de sa génération, d'Alain Delon à Richard Burton, en passant par Marcello Mastroianni, une Italienne au visage de Madone, dirigée par les plus grands Eva Bétan.
Le cinéma, vous savez, est une chose étrange, puisque un des sommets de la carrière de Virna Lisi, le prix d'interprétation à Cannes donc en 1994, ce sera quand Patrice Chéreau l'enlaidit, la durcit, la vieillit, il lui fait une drôle de coiffure avec un front gigantesque qui va jusqu'au milieu de la tête, il lui a fait raser le front. Elle est aimable comme une migale, elle est Catherine de Médicis, donc dans La Reine Margot. Grand film, grand metteur en scène, grand instinct quand il a choisi, et surprise pour les spectateurs de voir la belle Virna Lisi ainsi transformée. La belle Virna Lisi, il faut le dire, qu'on avait un peu oublié. Dans le panorama des actrices italiennes que nous connaissons en France, Virna Lisi est une très belle italienne, donc blonde, racée, un peu mystérieuse, avec une voix singulière. Elle a commencé au cinéma très jeune, à 16 ans. Elle a tourné avec toutes sortes de metteurs en scène, toutes sortes de gens, et très vite, sa carrière va prendre l'envolée. Les plus belles années pour elle, ce sont les années 60, en Italie et hors d'Italie. C'est Messieurs Dames de Pietro Germi, Palme d'Or à Cannes en 66, Ex-aequo avec Un homme et une femme de Claude Lelouch, il faut le rappeler, mais elle est aussi dans Eva de Lozé, elle joue dans La Tulipe Noire de Christian Jacques avec Alain Delon, dans Le Serpent d'Henri Verneuil, elle est appelée par Hollywood, elle tourne notamment une comédie qui aura beaucoup de succès, Comment tuer votre femme avec Jack Lemmon, mais elle ne reste que 3 ans aux États-Unis, elle est courte son contrat, elle ne veut pas être la belle blonde de service. On remarque en regardant sa filmographie que les rôles qui l'ont enlaidie et vieillie lui auront réussi au plan de la carrière. La Cigale d'Alberto Lattuada, La Relance en 80, beaucoup de prix pour ce film, ou encore Joyeux Noël, Bonne Année, Lou Giacomo Mancini, vieux couple qu'elle forme avec Michel Serrault, et donc, on le disait, La Reine Margot, comme un paradoxe, comme un pied de nez, comme il fallait que s'éclipse la beauté avec ce qu'elle a d'aveuglant pour que claque ses capacités dramatiques.
Eva Bétan et son dernier film, Latin Lover, réalisé par Cristina Comencini, sortira en salle en mars 2015. Tout de suite, le temps de ce vendredi avec Elodie Calac de Météo France.
La météo avec les chapons fermiers de Loué. Authentique chapon fermier.
Encore beaucoup de douceur demain, il ne fera pas moins de 6 à 12 degrés le matin. L'après-midi, comptez 11 à 15 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 16 à 18 degrés autour de la Méditerranée. Du golfe du Lion jusqu'aux Alpes, le soleil fera de belles apparitions. Il sera plus franc vers la Côte d'Azur et la Corse. Mistral et Tramontane se feront encore sentir. Du sud-ouest au massif central, la journée sera encore très nuageuse, même si le soleil tentera quelques percées l'après-midi, en particulier du côté de l'Aquitaine. Et puis plus au nord, une nouvelle perturbation va circuler. Le matin, elle apportera des pluies et du vent entre la Bretagne, la région parisienne et la Belgique. L'après-midi, ces pluies progresseront vers les Charentes, le centre, le Jura. Près de la Manche et de la mer du Nord, vous retrouverez alors un temps plus sec avec quelques éclaircies.